Romains 8. On va juste lire deux versets pour s'introduire. On va considérer plusieurs versets de... Hey, vous savez, Romains 8, là, il y en a qui ont appelé ça le sommet de l'Évangile, le sommet de l'Épître aux Romains, le sommet du Nouveau Testament. Romains 8, c'est tout qu'un chapitre, comme je l'ai dit tantôt, qui commence avec « pas de condamnation » et qui finit avec « pas de séparation ». Tout à cause de Christ, de son œuvre accomplie, parfaite. Juste lire deux versets pour s'introduire, et vous allez voir pourquoi, parce que ça va être là-dessus qu'on va baser l'ensemble du message. Et vous allez avoir le titre du message que je vais vous donner à la lumière de ça. Donc, Romains 8, on commence au verset 31, on va lire jusqu'à à la fin de 32. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Seigneur, on veut s'approcher de toi maintenant parce que tu es celui qui est le vrai enseignant ici. Seigneur, tu es celui qui convainc tes enfants, qui convainc les perdus de péché, de justice et de jugement. Donc, on s'approche de toi, Seigneur, parce qu'on veut t'exprimer notre besoin, notre dépendance totale. Pour que ce moment dans ta parole bénisse la vérité, qu'il porte du fruit à ta gloire. Seigneur, que ta volonté se fasse. Fais le silence dans chacun de nos cœurs, qu'on soit attentif, qu'on entende la voix du berger. Et que, Seigneur, on puisse se réjouir du fait que tu t'es adressé à nous ce matin dans ta parole. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Les versets, en fait, l'ensemble des versets du chapitre 8, il y a vraiment, c'est d'une grande valeur théologique, christologique. Mais spécialement, les versets qu'on vient de lire là, les versets 31 et 32, sont bien précieux parce que sont basés sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ en notre faveur, nous, le peuple de Dieu. Et quand ça dit qu'il a été livré pour nous, que Christ a été livré pour nous, ça réfère à l'expiation. Christ a payé le prix de notre péché. Il a payé la dette. Il nous a rachetés. Il a payé à notre place que nous, on n'aurait jamais pu payer de toute notre existence. Et de cela découle une autre vérité merveilleuse. Non seulement on a l'expiation de nos péchés, mais on a aussi la propitiation. La propitiation, c'est un mot qui peut vous faire peur, vous n'avez peut-être pas entendu ça souvent, ça veut simplement dire le fait que Christ, en payant pour nos péchés, a satisfait la colère de Dieu contre notre péché. Christ, avec son sacrifice, a rendu Dieu favorable, propice envers nous pécheurs. La colère que nous on mérite, elle est tombée sur Christ. C'est ça la propitiation. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu lorsque nous avons reçu le sacrifice de Christ pour nous-mêmes, lorsqu'on a mis notre confiance dans son œuvre substitutive, lorsque lui, on accepte qu'il est mort à notre place. Lui qui a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Ça, c'est une belle image de la croix dans le psaume 85, où est-ce que la justice, l'amour de Dieu, les deux se rencontrent à la croix du calvaire. Et la croix, c'est à la fois la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour le pécheur et la plus grande manifestation de sa justice et de sa colère contre le péché. Car Jésus-Christ a subi l'infinie étendue de la colère de Dieu contre chacun de nos péchés à notre place. Et il a assouvi cette colère pour tous ceux qui croient, qui reçoivent ce sacrifice parfait. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien le faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Je lance l'appel de l'Évangile immédiatement. Veux-tu être seul face à la justice et la colère de Dieu? C'est ça la question. Être face à un Dieu trois fois saint qui voit absolument tout, qui est parfait, qui ne fait aucune injustice. Est-ce que tu veux te retrouver seul ou tu veux te confier dans celui qui a pris cette colère à ta place? Qui a porté le prix? Qui a porté le fardeau? À ta place. C'est une question de confiance, de foi. Est-ce que tu te confies en toi ou en celui qui est mort à ta place? Puis vraiment, ça va faire la différence entre toi-même subir de plein fouet la conséquence de ton péché ou te confier en celui qui l'a subi à ta place et qui l'a pris sur lui, en son corps, sur le bois infâme. Selon qu'il est écrit, « Maudit est celui qui est pendu au bois. » À cause de sa malédiction qui a accepté d'être maudit pour nous, on peut être béni en lui. Si vous êtes ici sans la vie de Jésus, vous n'avez qu'à vous tourner vers celui qui est mort pour vous. Et si vous êtes déjà dans la vie, si comme dans Jean 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, plus de colère, plus de condamnation. Mais il est passé de la mort à la vie. Si c'est vous ce matin, que vous avez la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, j'aimerais m'adresser à vous pour le reste du message. En basant le message sur l'expression du verset 32, où est-ce que ça nous dit que lui qui n'a point épargné son propre fils pour nous, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-t-il aussi toutes choses avec lui? Toute chose avec lui. Le thème du mois de février, c'est Christ, notre plénitude. Nous avons tout pleinement en lui. Ici, il nous dit que, à cause de l'œuvre expiatoire de Christ, à cause de la propitiation, nous avons toute chose en lui, avec lui. C'est-à-dire, et c'est le titre du message ce matin, Christ, la plénitude de notre héritage spirituel. Amen. On a un héritage incroyable. Et on a vu, ceux qui se rappellent, quand on a lu dans Romains 8, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et c'est ça notre héritage spirituel, celui qui nous vient par l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ. C'est un héritage qui est plein, qui est parfait, celui de la victoire. Et par ailleurs, il faut comprendre que souvent, on réfère à Romains 8, là, comme le grand chapitre de la victoire, hein, le chapitre du triomphe. Mais remarquez aussi que non seulement, puis c'est vrai, là, et vraiment, c'est la victoire partout, mais remarquez aussi la présence de la souffrance dans ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on l'a lu, mais la souffrance, elle est là. Par exemple, à la fin du verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, la réalité de notre appartenance à Dieu se manifeste souvent par le fait de souffrir pour notre Seigneur. » Puis on ne va pas tout lire les versets pour l'instant, mais dans versets 18 à 23, on voit que la souffrance est un effet universel de la chute du péché. On soupire, puis on souffre dans ce monde déchu à cause du péché. Ça l'amène la souffrance. Puis dans les versets 31 à 39, la conclusion glorieuse du chapitre, on voit que nous avons la délivrance de la puissance, de la peur dans et face à la persécution qui nous fait souvent souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a la plénitude de notre héritage spirituel et c'est garant de la victoire totale et ultime après que nous soyons passés par la souffrance. J'aime tellement le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc avec ça, ce matin, j'aimerais qu'on regarde simplement trois plénitudes de notre héritage spirituel en Jésus-Christ. D'abord, dans les versets 13 à 17, on a la plénitude de notre vie présente. La plénitude de notre vie présente. Vous savez, on vit dans le présent, pas comme avec les restes, nous avons tout pleinement en Christ maintenant. Nous avons la victoire, nous avons la vie qui satisfait. Et là-dessus, j'aimerais qu'on regarde les versets, juste pour s'introduire à cette section-là, 12 et 13. « Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Les versets qu'on considère ici nous parlent de la liberté que nous avons par l'Esprit de Dieu. Ça nous parle de la vie émancipée qu'on trouve lorsque on est sauvé par Jésus-Christ. Et là-dessus, je veux juste mettre en parallèle un verset qu'on a lu avant le temps de prière, le verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, ça nous parle de cette émancipation, de cette libération. Et quand ça réfère au verset 13 à la mortification, c'est pas dans le sens que je dois me mortifier, puis il faut que je me fasse mourir. En fait, la Bible nous dit qu'on est mort au péché. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà mort. Mort au péché, vivant pour Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Il a été brisé par l'œuvre de Christ et maintenant, vous êtes vivant pour Dieu. Donc, quand ça parle ici de faire mourir les actions du corps par l'esprit, c'est à la lumière de cette vie d'émancipation où est-ce que la puissance d'asservissement de la mort a été brisée et supplantée par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. OK? C'est vivre à la lumière de ce qui a été accompli en Christ. Donc, le verset 13 est à comprendre à la lumière du verset 2. Maintenant, au verset 14, ça l'exprime, ça l'amène un peu plus loin la même idée, car, OK? Donc, ça nous rattache à ce qui était dit avant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, c'est exprimé autrement, c'est-à-dire que la vie chrétienne, la vie par l'Esprit, est la vie sous une nouvelle direction. Référence parallèle ici dans Romains 7:6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non de la lettre qui a vieilli. Et une autre référence là-dessus, 2 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, nous sommes maintenant dirigés par l'esprit, on a été libérés de l'emprise du péché, et nous vivons sous une nouvelle autorité. On est dirigés, plus par notre chair, mais par l'esprit du Dieu vivant, selon la parole, qui nous dirige dans toute la parole. Et donc, c'est la fin de la servitude à cause de ça, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire que la domination a changé dans nos vies. C'est plus la domination du péché, c'est la domination de la vérité, de l'amour par le Saint-Esprit. Et la puissance de la mort a été brisée parce que Jésus, qui est vivant, c'est lui qui dirige nos vies. C'est par lui que nous vivons et nous sommes sauvés par sa vie. Et ça l'amène encore plus loin. La fin du verset 15, ça dit qu'on a l'Esprit en dedans de nous qui crie « Abba, Père ». Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça nous amène encore plus loin sur cette vie présente que nous avons la plénitude de la vie présente parce que non seulement on est délivré par la puissance de Dieu, on est libéré, mais on a une nouvelle appartenance. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Dieu. On a un nouveau père. Avant, notre père, c'était le diable. Mais quand on est passé de la mort à la vie, on est passé du royaume de Dieu de Satan à celui de Dieu. Et donc, on a une nouvelle appartenance. C'est unique. C'est saint. C'est précieux. Ce n'est pas de ce monde. Amen. L'autre jour, je me rappelle pas comment j'ai eu contact avec ça, mais j'ai écouté un petit clip, je ne sais pas combien de temps ça durait là, sur YouTube, ceux qui connaissent Émile Roy, c'est le fils du journaliste de Radio-Canada, Patrice Roy. Juste en disant ça, vous devez craindre en partant, là. Mais non, mais c'était quand même, c'était bien dans le sens que le gars voulait amener un peu les effets, les problèmes que le confinement a créé. Puis c'est un groupe d'âge d'à peu près 16 à 52 ans, si je me rappelle bien. Mais c'est une puissante démonstration du fait que l'homme non régénéré, qui n'est pas libéré, qui est dans la servitude encore, qui n'a pas une nouvelle appartenance, il a beau avoir toutes les meilleures idées du monde, ses solutions sont vaines. Pourquoi? Parce qu'il amenait des affaires, puis des idées, puis humainement parlant, mais c'était vide de réelle liberté, de réelle satisfaction. Puis c'est pas que ça l'amenait pas une certaine réflexion qui peut avoir une certaine logique. Mais quand on considère pas Dieu, puis d'ailleurs, il n'y avait aucune considération de Dieu là-dedans, on passe à côté de l'essentiel. Mais là-dessus, je vais amener ce point-là. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? C'est que je crois que nous, si nous sommes, ça dit, des enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, nous devons toutefois souffrir avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça m'a rappelé ce vidéo-là que il essaie d'expliquer dans le fond, puis il parlait de choses que, avec l'entraide humaine, tu vois, que l'Église de Jésus-Christ aurait dû s'occuper dès le début. Comme d'ailleurs, historiquement, ils l'ont fait. N'est-ce pas que la religion pure et sans tâche devant Dieu, c'est de se tenir des sueurs du monde, mais aussi de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Quelle occasion on a eu en 2020-2021 de faire ça, d'être ceux qui fidèlement se tiennent dans le ministère de la réconciliation tel qu'il est donné dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, on a une occasion à saisir, partager Christ à ce monde perdu. C'est ça que je disais la semaine passée, le plus grand problème de notre monde, c'est pas un virus, c'est pas la politique, c'est que le monde, on ne connaisse pas Dieu, s'en va en enfer parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça, c'est ça, la priorité des enfants de Dieu. Puis, en général, comme église, les églises, on a passé à côté. Puis je dirais que c'est une dérogation du rôle historique que l'Église a joué et du rôle planétaire. Savez-vous que nous, les petits nord-américains habitués à la ouate et tout ça, on a peur de souffrir, on ne veut pas souffrir. Ça servirait contre nous autres. Parce que vous irez dans des pays où est-ce qu'il y a de la persécution, de la difficulté et tout ça, les chrétiens n'ont pas la même réponse au genre de choses qui a pu arriver pour nous autres. Ça m'amène au deuxième point. Non seulement nous avons la plénitude de la vie présente, et oui, qu'on doit partager, mais aussi nous avons la plénitude de notre espérance. Donc, un qui a rapport au présent, l'autre à l'avenir. Et j'aimerais qu'on lise les versets 18 à 27 pour le deuxième point. La plénitude de notre espérance. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On va arrêter là pour l'instant. L'espérance, c'est en contraste, ok, on a la plénitude pour la vie présente, mais aussi on a une pleine espérance par rapport à l'avenir. L'espérance dans la Bible, c'est pas tirer un 25 cents dans les airs, puis j'espère que je vais tomber sur face parce que j'ai gagé que j'allais avoir face. peut-être pas un meilleur exemple, mais comprenez-vous, c'est pas l'idée de « Ah, oh, j'espère que ça va arriver ». C'est une ferme attente de ce qui n'est pas encore arrivé. L'espérance biblique, est, c'est une expression de foi, pas d'incertitude. C'est une expression de foi basée sur les faits, les promesses de la parole de Dieu, la certitude de l'accomplissement futur des promesses. Et ici, c'est l'accomplissement de cet affranchissement. Oui, on soupire, même toute la création, puis ce monde est tout brisé, mais on sait que c'est pas la fin de l'histoire. On sait que notre Dieu est vainqueur et que cette victoire va être pleinement exprimée. C'est juste une question de temps. Et nous avons cette espérance, une espérance vivante, qui est la source de notre persévérance pour accepter de souffrir pour un temps. C'est ça l'attente de la foi. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont affligés parce qu'ils n'ont point d'espérance. Les enfants de Dieu trouvent un sens à la souffrance à cause de la croix et ont un but dans la souffrance à cause de la résurrection. On n'est pas juste de même à là-bas comme je te pousse. Non, non, on sait que si on souffre, on est christocentrique. On souffre avec la connaissance à cause de la croix qu'on souffre pour le bien puis le péché des autres. Puis dans 1 Pierre, c'est extraordinaire parce qu'il dit, si ça va souffrir, souffrir comme des chrétiens justement, comme Christ, pour le bien puis le péché des autres. Puis on sait que si on souffre, c'est pas la fin de l'histoire. Comment ils sont mourraient comme... Peut-être que c'est vraiment ce qu'ils s'attendaient, je savais avec Meshach et Abednego, puis comment qu'on mourrait dans la fournaise ardente. Notre Dieu va nous délivrer. S'il ne nous délivre pas dans ce corps, être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur. Amen. Mais je ne veux pas qu'on manque un beau trésor. J'ai arrêté au verset 26, puis j'aimerais qu'on lise maintenant 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le ministère béni de l'Esprit du Dieu vivant, qui garde à l'avant-plan la mission de Christ, qui nous ramène constamment à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit lui-même en parlant du Consolateur qui devait venir. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il nous ramène constamment à l'œuvre rédemptrice de Christ. Encore ça, c'était Jean 15-26, maintenant 16-13-15, ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit exerce un ministère de grâce dans les enfants de Dieu, auprès des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, pour ranimer notre espérance. Parce que des fois, on peut la perdre, l'espérance. On peut regarder l'avenir en se demandant ce qui va arriver, puis on peut être ébranlé dans notre foi. Puis, encore mieux, c'est lui qui va suppléer à nos faiblesses. Quand on est faible, il est notre force. Puis en plus de ça, quand on ne sait même pas quoi dire, il intercède en faveur de nous autres. Wow! Quel ministère glorieux de la part de l'Esprit de Dieu qui nous est envoyé, par lequel les enfants sont scellés. Et ce ministère du Saint-Esprit, je l'ai dit, hein, il est christocentrique. Ça veut dire qu'il nous ramène au fait que si on souffre, et nous avons part aux souffrances. Et Christ est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Nous sommes appelés à marcher dans ses traces. Nous avons accepté de souffrir pour le bien, puis même pour le péché des autres. C'est ça que Christ a fait. Et le Saint-Esprit fait ça pour que justement, on soit réconfortés, fortifiés, pour que nous puissions exercer à notre tour ce ministère en faveur de ce monde déchu, perdu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Quelle vérité sur notre appel en ce moment, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Tout est là. Les circonstances, la provision divine, la plénitude de la vie présente, la plénitude de l'espérance, pour pas qu'on lâche, pour pas qu'on soit désespéré, pour pas que on se lasse, l'âme découragée, comme ça dit dans Hébreux 12:3. Parce que nous avons maintenant, en ce moment, nous jouissons de la plénitude de cette espérance en Jésus-Christ. Et tout ça, ça m'amène au point culminant du message ce matin. Par rapport à cet héritage merveilleux qu'on a dans notre Seigneur Jésus-Christ, plus que jamais, c'est puissant pour nous chrétiens dans ces temps dans lesquels nous vivons. Et je dirais spécialement par rapport au leadership que Dieu veut qu'il soit exercé au milieu de nous autres. Non seulement on a vu la plénitude de notre vie présente, de notre espérance, mais troisième, dans les versets 28 à 39, la plénitude de notre assurance. La plénitude de notre assurance. Les versets 28 à 29, on ne va pas les relire pour l'instant, on va relire tantôt des versets, mais juste regardez verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, puis là il nomme toutes sortes de choses, j'ai l'assurance, je suis sûr que rien de ce qui m'arrive, de rien de ce que, que le Seigneur peut permettre dans ma vie, ne va me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et ça, c'est vraiment, tu sais, si Romains 8 est le sommet, ben, les versets 28 à 29, c'est le sommet du sommet. C'est le pic, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Et on voit l'expression d'une confiance, d'une foi inébranlable en Dieu, qui est la base d'une assurance constante qui est basée sur l'œuvre parfaite de Christ. Ce n'est pas pris dans le vent comme ça. Dans les versets 28 à 30, regardez comment ce n'est pas juste pris dans le vent comme ça. « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. » Ce que ça nous dit, c'est qu'on est dans une œuvre parfaite qui vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce, tout don excellent viennent de lui, et notre salut vient de Dieu. C'est un appel ici à se rappeler que le salut vient de l'Éternel. Son origine n'est pas humaine, elle est divine, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Elle origine dans le cœur de Dieu, pas dans celui de l'homme. Il y a une sécurité là-dedans. Laissez pas cette vérité vous troubler, laissez-la vous réconforter. Les desseins éternels de Dieu ne sont pas donnés pour qu'on en soit tout troublé parce qu'on ne comprend pas et on ne sait pas trop comment ça peut fitter avec tout le reste de notre théologie. Dieu nous les donne pour que ça soit un réconfort. Dieu ne l'a pas échappé. On n'est pas un plan B à quelque part. Oups, il a trouvé ça ici. Non, non. Dieu est le Dieu souverain qui sauve souverainement. Il y a une sécurité là-dedans. Mais dans les versets 31 à 39, il y a le côté de l'homme là-dedans. Comment, il y a ce côté divin sur le salut vient de l'Éternel, mais l'autre côté de l'équation, c'est notre persévérance. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu veut qu'on trouve notre réconfort là-dedans du fait que si le salut vient de lui, il va nous garder. Et on va persévérer dans cet amour qui nous préserve et dont rien ne peut nous séparer. Ici, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de cette souffrance, de l'attaque, de d'être dans un monde déchu, la fin de l'épée, tout ça. Puis il y a même des dominations, toutes sortes de choses qui sont présentées. Mais à cause que c'est Dieu qui nous garde, on peut avoir l'assurance. Et là-dessus, je veux juste amener un point important par rapport à pourquoi j'aurais de l'assurance. Sur quoi est basée mon assurance? Ben, verset 32, si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour accomplir notre salut, à combien plus forte raison ne sera pas-t-il capable d'achever ce salut pour lequel il a payé un si grand prix? C'est qu'il va du, l'argument c'est du plus grand au plus petit. Si Dieu a donné son propre fils, le prix si grand, si infini, ben à combien plus forte raison il va pas être capable de faire ce qui découle de ça, ce qui vient par la suite. Mais encore plus que ça, Dieu va pas permettre que rien ne nous condamne. Parce que Jésus-Christ non seulement est mort pour nous, verset 32, mais aussi il est vivant pour intercéder pour nous. Et ça, on a ça dans d'autres endroits de la parole. C'est ainsi qu'il peut sauver parfaitement. Le salut de Dieu est parfait et complet. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Écoutez aussi, 1 Jean chapitre 2, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et donc, ça m'amène à une dernière base de notre assurance. Non seulement que Dieu n'a pas épargné son Fils, qu'il ne va pas permettre que rien ne nous condamne, mais Dieu non plus ne va pas permettre que rien ne nous sépare de son amour manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul met le paquet, là, il dit, là, ben, dans toutes ces choses, on n'est plus que vainqueur. Puis là, il nomme à peu près tout ce qui peut se nommer. Tu sais, un coup, donc, il en a vraiment mis. Là, autrement dit, il n'y a rien de ce qu'on peut imaginer de ce monde, de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Puis j'aime même faire Marco verset 37, ça dit, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui. » Pourquoi j'ai de l'assurance? Parce qu'elle n'est pas basée sur moi. Elle est basée sur Christ, sa personne, son œuvre parfaite. Il n'y a rien de moi. Si c'était de moi, je n'aurais pas d'assurance parce que je suis un pécheur, je suis inconstant dans toutes mes voies. Mais si mon assurance est basée sur Christ, sur son œuvre parfaite, mon assurance est complète. Et l'idée ici d'être plus que vainqueur, ça réfère à surmonter, à vaincre pleinement, sans revers, sans menace en retour. C'est-à-dire, c'est une job qui est faite, après ça, on n'en parle plus, on n'a plus besoin d'y revenir. Et là-dessus, je vais vous donner une référence parallèle tellement merveilleuse, Colossiens chapitre 2. Pas j'avais lu ça dernièrement, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Quel passage extraordinaire, le triomphe de la croix. À cause de ça, je veux dire, mon assurance n'est pas basée sur le sable mouvant des opinions puis des pensées humaines, de l'incertitude, des fausses espérances trompeuses qu'on peut avoir dans le monde, mais sur le roc de la parole de Dieu, de l'œuvre accomplie de Christ. C'est pour ça que j'ai de l'assurance. Parce que l'objet de ma foi est incroyable et merveilleux. Même si ma foi peut être chancelante, petite, c'est pas grave. Celui qui est l'objet de ma foi est infaillible.
Amen.
J'ai entendu une bonne illustration hier, un prédicateur qui disait, quand on est dans l'avion, je peux avoir peur, je peux avoir de l'estomac tout à l'envers, puis prier, là, je veux dire, pendant tout le long du voyage, parce que je suis tellement nerveux, puis tout ça, ma foi n'est pas très grande. Je veux dire, OK? Mais c'est pas grave. L'objet de ma foi, je suis dans l'avion. C'est elle qui va m'amener. J'ai beau là, venir rouge tomate, j'ai beau faire des salam aleik ou essayer tout ce qui peut se faire. Je veux dire, ma sécurité est dans le fait que je suis dans l'avion. Ben, moi, je peux être chancelant dans ma foi et tout ça, mais si je suis en Jésus-Christ, je suis en lui, c'est ça qui me donne de l'assurance. C'est pas regarder à moi, c'est regarder à celui qui est l'objet de ma foi. Est-ce que vous aimez mieux avoir une petite foi dans un grand Dieu ou une grande foi dans n'importe quoi d'autre? Le problème de certains ici, c'est qu'ils essaient d'avoir tellement une grande foi, mais dans la mauvaise chose. Ah, mais j'ai-tu bien cru, puis j'ai-tu bien fait ci, puis ça? Vous ne regardez pas à la bonne place, vous regardez à Christ. Et vous n'avez pas besoin d'une grosse foi pour ça, il faut juste regarder à la bonne personne. That's it. Comme on dit en russe. Juste vous donner quelques exemples de serviteurs comme ça qui avaient l'assurance. J'ai pris quelques exemples dans le livre des Actes. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. C'est la persécution, acte 4, 29. Vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et effectivement, Dieu a répondu puis il annonçait la parole avec une pleine assurance. Chapitre 9, verset 28, ça parle de Paul. Et il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de... C'est un petit nouveau sauvé qui persécutait l'Église, mais qui avait une assurance. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas basée sur lui, mais sur Christ. Paul et Barnabas, dans Actes 13, leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu a été annoncée. Mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Écoutez aussi 14.3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Et finalement, dans 1 Timothée 3.13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu, c'est l'héritage qu'ils ont. Toute arme forgée contre eux ne va pas tenir. Pourquoi? À cause de l'assurance que nous avons jusqu'à cause de celui qui nous tient. Rien en nous, tout en celui qui nous a sauvés. Et je veux terminer avec ça ce matin simplement. Je crois qu'il y a un besoin criant en ce moment, dans le corps de Christ, dans les églises locales comme ici, de leaders spirituels qui ont de l'assurance en leur Dieu. Pas en eux-mêmes, on a eu assez de ça dans le passé, puis je vais te dire, c'est un sable mouvant, ça va pas loin. Qui ont de l'assurance en leur Dieu, dans l'humilité, là, pas de l'arrogance, là, puis se penser bon, là. Mais de l'assurance en leur Dieu qui est basée sur la plénitude de notre héritage pour le présent, sur la plénitude de notre espérance par rapport à l'avenir. À cause de ça, on a une assurance complète. Et je dirais que pour beaucoup ici, vous avez un double rôle. En fait, pas mal pour tout le monde, là, peut-être pas les petits-enfants, mais dans certains domaines, on est des leaders. Dans le couple, peut-être, dans la famille, OK? Dans d'autres, on est des... C'est quoi le moi j'ai mis follower là, des suiveux. Ça fait suiveux, ça fait un peu têteux là, mais bon. Mais c'est pour dire que notre nature pécheresse veut dénigrer ce qui quelque chose est bon là. Je veux dire, c'est bon de suivre là. Dans d'autres domaines, par exemple au travail, dans l'église. Mais dans les deux cas, la différence se joue au niveau de puiser dans l'héritage spirituel que nous avons. Que je sois dans une position de diriger ou de suivre, je vais tout trouver dans la plénitude de mon héritage pour la vie présente, dans cette plénitude de l'espérance par rapport à l'avenir, sachant que je n'ai rien à craindre, et la plénitude de cette assurance. Et ma question ce matin, est-ce que tu possèdes ces plénitudes? Est-ce que tu reconnais qu'elles ne se retrouvent qu'en Jésus-Christ? Quand celui qui a fait l'œuvre parfaite de rédemption au calvaire. Et si tu n'as pas ces plénitudes, tu vas les avoir seulement et seulement par le salut, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu n'es pas sauvé, tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, comme on l'a vu, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Et ici, les enfants de Dieu qui m'écoutent, je vous pose la question, est-ce que vous vivez à la lumière de la plénitude de l'héritage que vous avez en Christ? De ton héritage? Est-ce que tu te l'es approprié? Est-ce que c'est la chose la plus précieuse? Est-ce que le reste, c'est des choses qui peuvent passer? C'est des choses qu'on peut remercier le Seigneur, on a des bénédictions dans cette terre, dans ce monde, on a la santé pour la plupart, mais est-ce que ce qui est le plus précieux, ce qui me donne le plus d'assurance, qui, dans ma vie, dépasse tout en termes d'importance, pour dire comme Paul, je regarde tout le reste comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour vous, cet héritage qui est en Jésus-Christ? Mon appel, c'est simplement ceci. Peu importe c'est quoi votre situation ce matin, c'est au même endroit qu'il faut aller. Au pied du trône de grâce, de celui qui nous dit lui-même, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Pas du mérite, pas d'être à la hauteur, du trône de la grâce. C'est pour ceux qui ne le méritent pas, ça, le trône de la grâce. « Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » On te remercie, Seigneur, du fait que ta parole est la vérité, que tu es la vérité. Il n'y a aucun mensonge en toi et que le salut n'est qu'en toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a tout accompli. Seigneur, fais porter le fruit que toi, tu veux porter à travers ces vérités qu'on a considérées ce matin. Seigneur, toi qui es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, toi qui perces le cœur le plus endurci, qui brise comme un marteau, le roc de la dureté du cœur, Seigneur, toi qui es le seul sauveur, si quelqu'un ici sans Christ, or qu'il se voit tel qu'il est, qu'il voit Christ tel qu'il est, et qu'il invoque sa miséricorde. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, ah, qu'on vive à la lumière de la plénitude de notre héritage spirituel en Jésus-Christ, afin que tu aies la gloire, que tu sois magnifié, dans nos vies, au milieu de nous, à travers cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.